Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Que la grâce du Seigneur Jésus le Christ ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Et avec ton esprit.
Aimons-nous les uns les autres pour confesser d'un cœur unanime la foi de l'Église universelle. Notre secours est dans le nom du Seigneur,
qui a fait les cieux et la terre.
Et je vous invite à la prière. Seigneur de la vie, Seigneur des vivants, en ce temps pascal, nous te prions. Pardonne-nous de si souvent réagir, parler, penser, vivre, comme si nous n'avions pas eu connaissance de toi. Comme si ta vie n'avait pas déjà triomphé en nous. Fais-nous remonter de nos tombeaux, ramène-nous, plonge-nous au fleuve de vie. Ne nous laisse pas vivre comme si tu ne nous avais déjà parlé. Guéris-nous des espérances conditionnelles et désabusées. Rassemble en nous ce qui se dissocie et perd le cap. Oui, Seigneur, renouvelle en nous, la fin de toi, pour qu'en vérité, faire ta volonté soit notre nourriture existentielle, celle pour laquelle on travaille et on s'investit, celle qui coûte et qui s'offre en partage sans se réserver, celle qui fait vivre et dont dépend la vie. Seigneur de la vie, Seigneur des vivants, pardonne-nous, réjouis-nous, exauce-nous. Amen. Qui nous condamnera ? Jésus-Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. En lui, le Dieu Tout-Puissant vous fait miséricorde. Et après nous avoir pardonné nos péchés, il nous conduit à cette vie d'éternité qui nous est promise. Amen. Quand Sœur Gabrielle m'a demandé de célébrer ce culte, elle m'a dit, vous savez, on en est au psaume 126. Bon, très bien. Et je vois qu'au fil des temps, la liste, vous êtes presque au bout. C'est un psaume magnifique, et je vais vous le lire, et juste après ce psaume, et avant le répond que vous avez, je vais vous lire un tout petit passage que vous connaissez aussi bien. Psaume 126, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Et alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Néguev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et puis le texte que je vous ai rajouté est un texte que vous maîtrisez totalement, puisqu'il est dans la règle de Reuilly, c'est le texte d'aujourd'hui, sur l'obéissance. Supporter le poids du jour, ne pas murmurer, n'avoir qu'une parole, regarder au Christ serviteur, prendre sa suite uniquement par amour.
Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous avez entendu, mais depuis ce matin, vous l'entendez. Supporter le poids du jour, ne pas murmurer, n'avoir qu'une parole. Ce sont les paroles que vous avez méditées ce matin dans la règle de Reuilly. C'est dans la partie de la règle, pour ceux qui ne connaissent pas bien, pas vous, hein, mais, qui porte sur l'obéissance. Supporter le poids du jour. Ne pas murmurer, n'avoir qu'une parole. Eh bien, le psaume 126 résonne comme une prolongation de ce texte magnifique. Et peut-être qu'il en explore quelques facettes supplémentaires, un peu différemment en tout cas. Et ces facettes, je voudrais vous en partager quatre aujourd'hui. La première de ces facettes, c'est autour de ce poids du jour, de ce murmure, de cette parole unique que nous devons avoir. Si l'Éternel a fait revenir les captifs de Sion, c'est bien à cause du poids dont on parle. C'est à cause de la souffrance du peuple. Son murmure au cours des âges et des exodes, cette parole de confiance que Dieu lui avait pourtant donnée. Ce psaume, vous le savez, il a certainement été écrit pour rendre compte de la joie au moment du retour de l'exil à Babylone, quand les rescapés sont revenus chez eux, pour décrire la joie d'un retour, mais aussi son poids. Vous avez vu que j'ai marqué des temps dans le psaume parce qu'il y a des différences d'écriture et de ce qui est dit. Le poids. Quel poids? Ben, quand ils se sont aperçus que leur place n'était plus là, que leur maison appartenait à d'autres, que leur champ était cultivé par des mains étrangères, que les jours qui venaient avaient une pesanteur certaine et que ce n'était pas exactement ce dont ils avaient rêvé, une espèce de paradis d'antan, mais qu'il y avait le poids du jour, le poids du réel. Ce psaume, dans les mots qu'il utilise, il s'associe aussi à d'autres retours, à d'autres sorties. Et en tout cas, la première expérience de libération de la servitude, celle de l'Égypte et de l'Exode qui a suivi, où souvent le peuple murmurait contre Moïse. Parce que sortir, c'est bien. Être délivré, c'est bien. Mais la vie au désert, c'est une épreuve. Et c'est une épreuve parfois abominable de longueur. 40 ans, c'est l'espérance de vie d'un homme à l'époque. Toute une vie au désert. Ce psaume qui nous parle de l'exil, et derrière lui, on voit bien poindre l'exode, il rappelle cette parole qui met en route un peuple, qui le relève, qui le redresse, une parole qui a été émise, mais il y a si longtemps que sans doute on ne peut pas, on ne sait pas continuer à s'y fier. Et pourtant c'est elle, cette parole, qui porte
l'espérance. Supporter le poids du jour. Ne pas murmurer. N'avoir qu'une parole pour soi, mais aussi qu'une parole à qui se fier. C'est la première facette que je voulais partager avec vous maintenant. C'est, malgré le poids de la vie, ne jamais perdre de vue l'espérance. Mais le texte de la règle ne s'arrête pas là. Et c'est la seconde facette que je veux partager avec vous maintenant, et la partager aussi à propos du psaume 126. Le passage de la règle d'aujourd'hui continue avec cette phrase qui nous tourne vers demain. Regarder au Christ serviteur et prendre sa suite. Il s'agit bien entendu de prendre sa part de service pour les autres et pour le monde, et d'avancer, de marcher, de regarder vers demain. Ce sont les mêmes mouvements que le psaume décrit. Il les décrit quand il dit « Celui qui marche en pleurant quand il porte sa semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Pour le laboureur qui sème, il s'agit de son service aussi, de son engagement pour nourrir. Nourrir sa famille, nourrir l'humanité, prendre soin du monde. Il s'agit aussi de sa marche en avant, à la fois douloureuse et remplie d'espérance. Voyez-vous, mes sœurs, la méditation de ce psaume 126, elle est étonnante. Parce que ce psaume, il marque une réalité que vous méditez à chaque instant. La vie, notre vie, est un mouvement. Comme le mouvement du semeur qui avance dans le champ. Pour lui, le mouvement est dur. Il en pleure parfois quand il ne discerne pas le but ou qu'il ne le discerne plus. Le mouvement est dur. Changer est dur, faire un pas de côté est dur, mais salvateur, comme une marche harassante et fertile. Celui qui marche en pleurant revient avec allégresse. C'est l'image d'un Dieu aussi qui transforme le monde dans le mouvement, par le mouvement. Qui nous transforme, nous, lorsque nous nous mettons, que nous nous remettons en marche. L'image de ce Dieu qui me transforme quand je me remets en marche et qui marche à mes côtés, inlassable compagnon de route. Vous avez un autre texte dans la règle qui rappelle ça, c'est « commence ». Commence sans cesse. Ce qui veut dire « soit dans l'état d'esprit de celui qui commence ». Car la vie avec Dieu, elle est dans ce mouvement constant du corps, du cœur, de l'âme. Et c'est peut-être la deuxième facette que je voulais vous partager aujourd'hui. La vie avec Dieu est dans ce mouvement constant du cœur, du corps, de l'âme. Une troisième facette, c'est que je me suis rendu compte que quand on lisait ce psaume, on le lisait comme un psaume de joie uniquement. Là, 126, ah ouais, c'est... Il y a de la joie.
Mais j'ai été frappé aussi par quelque chose. C'est les temps du psaume, les temps en termes grammaticaux. Et il y a clairement trois phases. On commence au passé, puis il y a une sorte de confession de foi au présent, et puis enfin une espèce de futur qui s'ouvre pour que quelque chose advienne. Le passé, c'est le début du psaume. On est comme dans un rêve, où on voit que l'Éternel a ramené les captifs, c'est déjà fait. Il les a ramenés au moment où on s'y attendait le moins, au point que la joie, nous dit-on, débordait de notre bouche, presque par surprise. Les mots hébreux sont d'ailleurs assez amusants pour dire ça, parce que c'est vraiment la description d'une espèce de fontaine qui sort de la bouche et à laquelle on ne peut rien. Ça sort presque malgré soi. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La joie qui déborde, elle est contagieuse, cette joie. Elle est contagieuse au point que les nations voisines reconnaissent l'action de Dieu comme celui qui a fait de grandes choses pour son peuple. Notre joie, elle n'est pas animée par nous-mêmes, c'est quelque chose qui jaillit de nous, qui n'est pas volontaire, et c'est cela qui fait que les nations autour se disent « Ah oui, il y a quelque chose là ». Le deuxième temps du psaume, c'est le présent, avec la conviction d'être privilégié, d'être au bénéfice de cette grâce divine. Ce que le rêve me dit, c'est que oui, il a fait de grandes choses. C'est fait. C'est la reconnaissance de l'action de Dieu dans nos propres vies, de son amour actif, bienveillant. On est au présent de la reconnaissance et de la conversion, d'une certaine manière. Seigneur, merci. Et puis, immédiatement après, vient le choc du réel. Avec l'avenir qui s'ouvre et un énorme décalage par rapport aux rêves. Seigneur, ramène nos captifs. Ramène-les comme les ruisseaux dans le Négev, comme si les captifs n'étaient pas déjà rentrés au pays encore. Comme si le peuple n'avait pas quitté l'exil de Babylone. Comme si l'Égypte des pharaons était encore là aussi. Seigneur, viens et délivre-nous. On est dans une espèce de tension constante, qui est la nôtre d'ailleurs, entre le déjà et le pas encore, entre l'espérance et le réel. Ce qui parle là pour le psalmiste, c'est sa mémoire, une mémoire d'espérance qui se fie aux promesses, à la parole de son Dieu qui a promis, qui s'est engagé. L'Éternel qui a de nombreuses reprises à transformer la souffrance d'un peuple ou d'un homme en bénédiction, conformément à sa promesse. C'est de ça dont le psalmiste se souvient. Cette tension permanente entre le déjà et le pas encore, c'est le lot de tout croyant, moi comme vous. C'est ce qui fait voir que chaque souffrance a son lot d'espérance possible. C'est ce qui fait vivre que le Seigneur transforme ma souffrance en bénédiction. Et l'image de la bénédiction, c'est l'image du Negev qui est citée dans le psaume. « Ramène nos captifs comme les ruisseaux du Negev. » Le Negev, vous le savez, c'est cette terre désolée, cette terre désertique, mais immensément fertile, sur laquelle il suffit qu'un peu d'eau arrive pour voir fleurir une terre à profusion. C'est l'idée qu'il nous faut vivre le « déjà, pas encore » de la surabondance divine, et que la spiritualité est une aventure qui se situe dans ce « déjà, pas encore » de la grâce. C'est peut-être ça qui pourrait faire notre troisième facette. Vivre la spiritualité comme une aventure qui se situe dans le déjà pas encore de la grâce. Donc vous avez déjà trois facettes de ce psaume qui nous rejoignent dans notre texte d'aujourd'hui de la règle, ce que vous avez médité ce matin, qui nous rejoignent aussi dans notre être profondément. Malgré le poids de la vie, ne jamais perdre de vue l'espérance. Commencez, parce que la vie avec Dieu est dans ce mouvement constant du cœur, du corps, de l'âme. Et vivre la spiritualité comme une aventure qui se situe dans le déjà pas encore de la grâce. Mais je vous ai promis quatre facettes, il en manque une. Et cette facette, elle est donnée par le dernier mot du texte de la règle et le premier mot du texte du psaume. Le dernier mot du texte de la règle qu'on a partagé tout à l'heure, c'est « uniquement par amour ». Uniquement par amour. Par amour, on le comprend très bien. Qu'on puisse situer l'obéissance et se situer nous-mêmes dans l'obéissance par amour, on le comprend très bien. Qu'on puisse se baser sur l'amour pour ne pas perdre de vue l'espérance, on le comprend aussi. Pour se mettre en mouvement, pour assumer un déjà pas encore, que ce soit l'amour qui nous guide, on le comprend. Que ce par amour soit aussi destiné à l'amour de Dieu ou à l'amour du Christ, parce qu'on sait bien qu'on a choisi de se mettre dans sa suite, tout cela c'est compréhensible. C'est parfois difficile, mais c'est compréhensible. On voit ce que ça veut dire. Mais le plus important peut-être, c'est le petit mot qui est avant. Uniquement. Uniquement par amour. Et pour moi, c'est ce qui fait écho au premier mot du psaume. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Il y a derrière ces mots quelque chose de l'amour inconditionnel de Dieu pour les humains. Ce n'est pas l'initiative du peuple, c'est l'initiative de Dieu. Le peuple a commis des fautes innombrables et Dieu a redonné son alliance. Sans cesse. Le peuple s'est fait battre et a subi le temps de l'exil, et Dieu a donné des prophètes. Le peuple a perdu confiance, et Dieu a donné des guides, et il a délivré. C'est toujours comme ça. C'est toujours Dieu qui vient repêcher l'humain au cœur de sa détresse, de manière incompréhensible et surprenante à chaque fois. C'est imprévisible. Et il le fait pourquoi ? Par amour ? Par espérance que l'homme change ? Par éducation de son peuple ? Par souci pédagogique ? Par fidélité à sa promesse ? Uniquement par amour. Ne cherchons pas de cause
ou de raisonnement divin sur la manière dont Dieu nous aime, sur le caractère indéfectible ou inconditionnel de son amour, sur des situations où l'homme pourrait ou non dépasser des bornes de la patience divine. On est sur toute autre chose, uniquement par amour. Car Dieu nous aime tels que nous sommes, imparfaits, idolâtres parfois, provocateurs aussi, instables, uniquement par amour. Et c'est à ce uniquement qu'il nous faut répondre aujourd'hui, dans toutes les facettes du psaume. Malgré le poids de la vie, ne jamais perdre de vue l'espérance, uniquement par amour. Commencer et commencer sans cesse, parce que la vie avec Dieu est dans ce mouvement constant du corps, du cœur, de l'âme, uniquement par amour. Vivre la spiritualité comme une aventure qui se situe dans le déjà pas encore de la grâce. Oui, uniquement par amour. C'est pour moi, pour nous, le programme d'une vie. Amen.
Thank you. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Élevons notre cœur.
Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Cela est juste et bon.
Notre joie est de te louer et de t'adorer, Père Tout-Puissant, Dieu éternel. Car tu n'as pas abandonné ton Fils au tombeau, mais tu l'as ressuscité d'entre les morts, lui le prince de la vie. Par lui, nos corps mortels revêtiront l'immortalité, et toute la création aura part, un jour, à la liberté glorieuse de tes enfants. C'est pourquoi avec l'Église universelle, avec les myriades des anges, avec le cortège glorieux de ceux qui nous ont précédés et dont les noms sont inscrits au livre de la vie, nous proclamons ta gloire et d'une seule voix nous chantons. Toute créature fasse silence devant le Seigneur. Le Seigneur, la nuit où il fut livré, après avoir rendu grâce, prit du pain et le rompit. Et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, à la fin du repas, il prit d'une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur notre Dieu, notre Père, faisant mémoire des souffrances et de la croix de ton serviteur, Jésus, nous te rendons grâce pour sa victoire sur la mort, pour son entrée dans la gloire. Il est le ressuscité qui nous donne sa vie. Envoie sur nous, Seigneur, ton Esprit Saint, qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils. que par ce pain et ce vin, nous puissions nous redresser, nous mettre en avant et suivre ce chemin que tu nous as tracé. Et unis à lui, nous te prions avec confiance. Seigneur, enthousiasme-nous dans cette communion. Sois le vin de cette farine, sève de ce raisin. Que ce que tu as fait ce matin de Pâques en ressuscitant Jésus-Christ, fais-le encore aujourd'hui. Redonne-nous vie à travers ce pain et ce vin. Qu'il soit en nous son corps glorieux pour que notre présent s'embrase d'éternité. Heureux êtes-vous qui êtes invités au festin des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Venez maintenant, car tout est prêt. Venez parce que vous êtes aimé de Dieu. Nous avons été invités à ce repas. Invités par le Seigneur. Pourquoi ? Uniquement par amour. Que cet amour-là nous fasse grandir et nous fasse vivre. Lorsque chacun nous allons retrouver notre place. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. La joie sortait de nos bouches sans que nous puissions la maîtriser. Il y a un chant pour ça. Chante Alléluia au Seigneur, que nous chanterons tout à l'heure. Et Seigneur, nous voulons nous remettre devant toi maintenant et te remercier. Pour la force et le réconfort que tu nous as donné par le corps et le sang du Christ, grâce te soit rendue, Seigneur. Pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité, grâce te soit rendue, Seigneur. Pour l'unité en un même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe, grâce te soit rendue, Seigneur. Pour la vision de ce royaume d'éternité qui nous est promis, grâce te soit rendue, Seigneur. Amen.
Amen.
Le Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Mes sœurs, quand nous disons que le Christ est ressuscité et que nous répondons qu'il est vraiment ressuscité, en fait, il y a une autre dimension dans nos existences. C'est qu'il nous ressuscite, ou plus exactement, il nous ressuscite en tant qu'être humain, en tant que à sa suite, en tant que psalmiste qui disons encore aujourd'hui le psaume 126. Le Christ est ressuscité, il marche à nos côtés, il partage nos chemins. Il pose ses pas dans les nôtres. Que la lumière du ressuscité éclaire notre présent et notre passé. Qu'il apaise ce qui en nous en a besoin. Que le souffle du ressuscité rythme le temps de nos journées. Que la vie du ressuscité inspire nos rencontres et nos projets. Le Seigneur ressuscité inspire et habite nos labeurs de ressuscité, comme il inspire et agit au cœur de notre repos. Oui, que nous puissions aller sur notre route et que le Seigneur nous y bénisse, maintenant et en tout temps.
Amen. Amen.